Mais voilà, allez, bisous bisous, à la semaine prochaine. Je dois meubler un peu parce que voilà, c'est en train de charger. Voilà, voilà, le générique de Canu Info du lundi. Toute l'équipe s'installe, c'est merveilleux, là, sous nos yeux, c'est parfait. Voilà.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Wesh, salut la famille, Radio Canu lundi, info, la plus rebelle des radios. Donc aujourd'hui on va avoir le plaisir à l'international de vous parler de la tôle que s'est pris Matteo Renzi sur son référendum. Ensuite on ira en Autriche où le populisme a échoué pour l'instant. Et également en Colombie où un nouvel accord de paix a été signé entre le gouvernement et les FARC. Puis on vous parlera de ces gentils satanistes du Texas qui veulent empêcher l'IVG au cas où Satan passerait à la trappe. Et on finira pour l'international, on parlera également des Sioux hein, qui ont gagné, qui ont fait reculer le grand serpent noir. Et il y aura un petit sujet sur le Congo également où la situation est explosive. On évoquera le très saint père François, donc pas Hollande, François du Vatican, et le plus grand fichage de tous les temps en Inde. Au national, on vous parlera d'un autre fichage, hein, parce qu'en France, on n'est pas en reste, du nucléaire, qui s'arrête un petit peu, de la situation du PS, avec Hollande qui se casse, et Valls qui arrive. Des élections sur... une petite brève sur les élections également à venir. Et le procès ignoble des frères Traoré. Au local, on vous parlera rapidement de la pétition pour que soit remboursé le coût du voyage des élus locaux au Vatican. Et le cas de Philippe Laya. Donc on finira par le traditionnel agenda. Radio Canu, lundi, info, la plus rebelle des radios.
Bonsoir, donc on va commencer très rapidement par nos amis transalpins. Donc en Italie, il y a eu un référendum ce week-end. Donc leur cher président Matteo Renzi a voulu, en fait, on va pas parler quand même de dictature, mais quand même a voulu transformer ce régime en régime présidentiel. Donc en faisant sous la forme d'un référendum, il a demandé un renforcement des droits en fait, du président et une restriction des droits des différentes chambres et des parlements régionaux. Donc, heureusement, on va dire, je pense que les Italiens se sont mobilisés sur cette question-là et le référendum a été perdu à plus de 60%. Donc Matteo Renzi a dû, ce qui est une très bonne nouvelle pour Atterranti, présenter sa démission. Donc on attend de voir la suite et puis voilà.
Sinon, au niveau de l'Autriche, on annonce la défaite de l'extrême droite aux élections présidentielles. Donc défaite de Norbert Hofer, donc du Parti libéral d'Autriche FPÖ, face à Alexander Van der Bellen. Des Verts, un écolo. Il a gagné avec 53,3% des voix. Le résultat est une surprise quand même pour beaucoup. Le 22 mai dernier, l'élection en Autriche avait été très serrée puis annulée par la Cour constitutionnelle. Et cette fois, les Autrichiens ont été convaincus par les arguments de Van der Bellen qui prône l'ouverture et dénonce dans sa campagne le risque de marginalisation que Hofer, donc du FPÖ, parti xénophobe de l'Autriche et de l'extrême droite, annonçait s'il avait été élu. Donc cette élection est saluée par beaucoup d'élus européens, notamment Alexis Tsipras, qui dit que c'est une bouffée d'air frais à l'heure où l'Europe est menacée par la progression de l'extrême droite. Par contre, Marine Le Pen, elle, est assez attristée par les résultats de cette élection et espère des résultats différents et notamment la victoire pour les législatives de 2018 du parti FPÖ, donc le Parti libéral d'Autriche. Voilà.
Côté Colombie, donc ce 1er décembre, c'était le jour J de la paix donc, en Colombie. L'actuel président, donc Juan Manuel Santos, a d'ailleurs déclaré que la guerre était bel et bien finie. L'accord de paix donc négocié avec les FARC a été approuvé à l'unanimité, c'est-à-dire donc 75 sénateurs sur 100 et 130 députés sur 166. L'ancien président donc Alvaro Uribe, et aujourd'hui donc sénateur et opposant également à cet accord de paix, a quant à lui décidé de quitter donc l'hémicycle et ne pas participer donc à ce vote. Donc dans 50 jours, quelques 6000 membres des FARC rejoindront donc des zones transitoires de normalisation. De là, ils auront donc 50 jours pour déposer donc les armes. Le 10 décembre, donc, l'actuel président, donc, Juan Manuel Santos, recevra le prix Nobel de la paix. Et dans 6 mois, les FARC seront donc devenus un parti politique. Néanmoins, donc, les FARC ont une peur parce qu'ils ne veulent pas donc quitter leur maquis pour se retrouver en tôle. Car la loi d'amnistie donc, devrait être présentée au Congrès donc, début décembre, mais pose quelques problèmes, puisque rappelons que les citoyens donc, ont désapprouvé cet accord de paix par référendum.
Donc pour continuer sur le grand continent américain, c'est les satanistes en fait, qui s'activent contre une nouvelle mesure anti-IVG au Texas. Donc en fait, au Texas, l'État de Texan, qui n'est pas connu pour être un des grands progressistes, veut obliger les femmes ayant pratiqué un avortement à enterrer ou incinérer le fœtus. Et parmi ses opposants au pro-choix, il y a donc des groupes satanistes. Donc ce qui nous intéresse, c'est donc que les Texan veulent incinérer ou enterrer, ce qui donne en fait une légitimité et impose l'idée que les tissus du fœtus avorté doivent être élevés au statut de personne. Donc qui est justement un des grands combats de la question de l'IVG. Et donc il est parfaitement clair qu'enterrement des tissus avortés est une mesure punitive imposée par des théocrates sadiques. Donc justement, on a cette association qui est en fait proche en fait, des planifs familiaux locaux qui manifeste et qui, au nom du satanisme, dit qu'ils n'ont pas au nom de leur entente sataniste et au nom du respect de leur religion. Et il est hors de question qu'il soit obligé de brûler ou d'enterrer un corps, et donc manifeste pour ça. Faut voir que ces groupes politiques se manifestent régulièrement à côté des anti-avortements et du planning familial américain. Ils sont extrêmement connus, en fait, pour ce qui pourrait passer pour une secte, en fait, c'est surtout un gros groupe de pression. Et ils sont connus pour des happenings, et le dernier qu'ils ont fait, en fait, en manifestant, ils ont traîné une immense croix dans les rues de Ann Arbor avec des hommes déguisés en prêtres en versant du lait sur des femmes à genoux. Donc il s'est sûr, donc dans un délire assez choquant, mais dans une logique de s'opposer à ces réglementations totalement aberrantes et qui est rétrograde de la part de l'État Texan.
On continue avec les États-Unis et la bataille entre les cow-boys et les Indiens. Donc là, c'est les Sioux. qui ont gagné une bataille, pas la guerre forcément, mais les Sioux de la réserve de Standing Rock dans le Dakota du Sud, ils viennent de remporter une grande victoire le 4 décembre, donc hier. Depuis le 1er avril, ils ont établi un camp de résistance pour bloquer un projet d'oléoduc, le Dakota Access Pipeline, d'une longueur de 1800 km, qui menace les sites culturels ancestraux et leurs sources d'eau. Le 4 décembre, donc hier, le corps des ingénieurs de l'armée américaine a annoncé qu'il refusait à la société pétrolière un permis de forage sous la rivière Missouri. La secrétaire adjointe aux travaux civils de l'armée de terre précise dans un communiqué que le gouvernement va entreprendre une étude d'impact environnemental complète et étudier des tracés alternatifs. Cette déclaration stoppe officiellement la construction du pipeline évaluée à 3,8 milliards de dollars et financée en partie par des banques françaises, forcément. C'est une bataille de gagner, mais c'est pas la guerre, parce que Trump prendra ses fonctions en janvier 2017, donc ça c'est pour les cow-boys. Et la semaine dernière, il a rappelé qu'il appuyait le projet de l'oléoduc, mais il assure que son soutien n'a rien à voir avec son investissement. En effet, Donald Trump a investi entre 500 000 et 1 million de dollars dans la compagnie Energy Transfer Partners et une somme similaire dans la société Philips 66 qui bénéficiera de 25% de parts dans l'oléoduc. Excusez-moi. Une fois sa construction achevée, voilà. Pour l'heure, les représentations de l'équipe de transition de Donald Trump n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Alors, en Afrique, cette fois-ci, au Congo, entre vendredi et dimanche, il y a eu 23 morts dans des affrontements entre la police et des milices au centre de la République dite démocratique du Congo. Donc là-bas, on a une situation pré-révolutionnaire, parce que le 19 décembre, il y a des grands appels à la manifestation, parce que Kabila, qui est le chef du PPRD là-bas, et qui est au pouvoir depuis 2001, doit, selon la Constitution, partir. Parce que, comme chez les Ricains dont on vient de parler, ils n'ont pas le droit de faire plus de 2 mandats. Donc ce Kabila, pour rester au pouvoir, il invoque l'impossibilité d'organiser le scrutin. Donc pour ce faire, il cite l'article 70 de la loi fondamentale, à savoir qu'à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc s'il n'y a pas de nouveau président élu, il reste président. Donc en janvier 2015 déjà, il avait tenté de bidouiller la constitution pour imposer un recensement de la population, qui aurait été le préalable à l'enrôlement de nouveaux électeurs, qui serait au nombre de 8 millions, ce qui fait quand même 10% de la population totale, qui est de 80 millions donc. Et comme le Congo, en superficie, ça fait environ 4 fois la France, ce recensement, ça aurait pris des années et il y aurait eu un report indéterminé de l'élection présidentielle, ce qui lui aurait permis de rester au pouvoir. Donc ce Kabila, avec son parti qui siège dans les 3/4 des postes de l'Assemblée nationale, ça fait 1 an qu'ils essayent tous les jours au quotidien de truander leur peuple, et ça fait 1 an que là-bas, les différentes factions, les différentes oppositions s'organisent pour essayer de chasser le tyran du pouvoir. Donc ça fait 1 an que ça part en vrille au Congo, pour autant qu'on puisse dire qu'il y a eu des moments où ça partait pas en vrille, où il y aurait eu des périodes plus calmes, sans répression, on n'a pas connu ça encore. Qu'est-ce que vous me dites ?
On te dit rien.
On
ne
dit rien, ah, ok.
Pour une fois.
C'est encore vie, c'est tout.
Donc voilà, donc ça fait un mec, ça part en vrille, et l'année dernière, il y a eu 3 jours d'émeutes à Kinshasa. Désolé d'être si soporifique. Et du 19 au 21 janvier, et qui avait obligé Kabila à revenir sur leur grosse combine et à promettre des élections. Donc ces élections, elles auraient dû avoir lieu déjà le 19 septembre, mais évidemment, il n'y a rien qui a été prévu, et surtout pas la révision du fichier électoral. Donc du coup, pas de nom pour les votants, la plupart sont morts ou pas majeurs. Et du coup, il y a eu des manifs monstres dans plusieurs villes du pays. La réaction du pouvoir, ça a été 32 personnes tuées par la police. Et dans la nuit, les flics ont incendié les sièges des grands partis d'opposition. Donc ça rigole pas. Donc ces principaux partis d'opposition, comme par exemple l'UDPS, l'Union pour la démocratie, ils appellent à une manif le 19 pour obliger Kabila à partir. Donc c'est dans 2 semaines. Donc ce Kabila, c'est la série des grands autocrates, moi je, qui est fils de tyran, père de tyran et tyran lui-même. Donc il a accédé au pouvoir en remplaçant son père. Ah d'accord. Père qui a été assassiné de façon plutôt crapuleuse. et qui avait déjà remplacé Mobutu, un autre tyran, un autre fossoyeur de son peuple, une autre étoile de la France-Afrique, une autre gloire de l'impérialisme français.
Et son monde.
Et son monde. Alors, ça fait plaisir que tu puisses te réveiller en commentant comme ça. Alors, ce Kabila fils, qui s'appelle Joseph, il a, comme le père de Jésus, il a assis, et son monde, il a assis sa légitimité sur la cessation d'une terrible guerre, hein, faut le rappeler, de 1998 à 2002, auquel 9 pays africains minimum ont participé et qui a fait des centaines de milliers de victimes, voire même des millions. Les historiens et les analystes n'arrivent pas à se mettre d'accord hein, si on est à 400 000 morts ou à 4 millions. Donc la vérité n'est pas du tout faite sur ce qui s'est passé là-bas. Et ce Kabila, il a obtenu entre guillemets la cessation du conflit au terme d'un accord qui a été piloté par l'Afrique du Sud et qui l'obligeait à partager le pouvoir avec des chefs de guerre, des chefs tribaux, chefs de guerre qui justement sont rentrés en dissidence et contre lesquels la police s'est affrontée de vendredi à dimanche, et ce qui a fait 23 morts. Donc ce Joseph Kabila, qui avait été soi-disant élu en 2006 avec soi-disant 58% des voix, il utilise l'armée pour faire rentrer dans l'armée régulière justement ces chefs tribaux qui ne se laissent pas faire. Donc en 2011, il avait été soi-disant réélu avec soi-disant 49% des voix, et ça lui avait permis de faire la sourde oreille aux injonctions étrangères, comme il dit, type ONU, USA, la France, l'Union Européenne, qui sont, comme on le sait, des grands défenseurs de la démocratie en Afrique, et qui promeuvent l'alternance, hein, d'accord ? On met une marionnette, et dès qu'elle s'installe trop, dès qu'elle essaye de transformer la rente des matières premières avec un minimum d'éducation, de santé, de structure, de transport, etc., pour garder le pouvoir, justement, parce qu'il faut contenter un minimum le peuple, eh bien, justement, on les déstabilise, on crée la division dans les pays, pour que toute la rente, ou en tout cas le maximum de la rente, passe bien dans les coffres des multinationales. Donc, faut dire qu'à ce Kabila, effectivement, il est en grand danger, parce que quand il voit comment ça se passe pour ses voisins, ça le fait réfléchir. Par exemple, Compaoré, qui a été chassé par la rue après 27 ans de dictature au Burkina, pays des hommes intègres. Et surtout, il voit que ses autres petits camarades qui ont obéi aux Américains, comme le Burundais Pierre Nkurunziza ou Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, ils ont été réélus, eux, donc réélus à balles réelles, hein, en réprimant leurs soi-disant électeurs. Donc ces troubles, ils sont assez spontanés, hein, ils sont surtout commandés par la misère, l'embrigadement des jeunes et des enfants soldats dans les armées. Et parce qu'en fait, les milices et la violence, c'est une des seules sources de revenus. Et elle s'accompagne de choses pas très drôles, hein, comme le pillage, par exemple, des commerces chinois, parce que Pékin passe pour un soutien du régime aujourd'hui, à travers notamment la China Molybdenum, qui a racheté aux Américains la plus grande mine de cuivre et de cobalt pour 2,5 milliards de dollars. Donc surtout, en juin 2015, déjà il y a un an, les manifs, elles étaient auto-organisées, grâce aux réseaux sociaux, et c'est pour ça qu'il y a un blackout du net dès que ça chauffe maintenant, que ce soit en Afrique, mais aussi en Turquie, n'importe où. Et c'est derrière cette mobilisation spontanée que les soi-disant partis d'opposition, qui en fait sont des entreprises de l'impérialisme pour diviser et déstabiliser le pays, ont suivi à la remorque pour essayer de récupérer tout ça. Alors ce Kabila, il reste bien resté à la tête de son pays, qui est quand même le pays le plus pauvre en Afrique. D'accord, quand on sait que l'Afrique, déjà, ça galère assez. Et donc, confronté à une pauvreté structurelle, hein, aux appétits impérialistes de ses voisins et des grandes puissances, sur un fond de stratégie d'approvisionnement en matières premières stratégiques, notamment le cuivre, le cobalt. Donc, le quotidien du Congolais, c'est justement le record de la pauvreté en Afrique. C'est 82% de chômage, 51 ans d'espérance de vie et une répression constante avec des polices secrètes, des massacres, des disparitions. Un signe que ça va chauffer, c'est que les gens importants, les faucons de l'administration militaire totalitaire de ce bonhomme, ont envoyé leurs enfants à l'étranger pour la rentrée 2016. À Lyon 3, par exemple, je ne sais pas. Je sais qu'ils ont une tradition d'accueil pour les dictateurs africains. Et l'incertitude est assez grande pour ce géant de l'Afrique centrale. Et cette mobilisation du peuple qui est annoncée, qui va être suivie, les gens en ont gros sur la patate. ça sera peut-être le signal pour cette Afrique des peuples qui peine à émerger, soumise qu'elle est au pillage honteux et sans vergogne des multinationales minières.
Et leur monde.
On va vous parler maintenant du pape François et son monde. Donc le pape, le nouveau pape, il avait déjà un petit peu mis les pieds dans le plat suite aux attentats de novembre 2015, en omettant d'accuser l'islam et en parlant plutôt des attaques occidentales et des bombardements. Il avait dit que c'était un climat de guerre et qu'il ne fallait pas s'étonner qu'on ait des représailles. Le pape François, donc, ce samedi 5 novembre, à l'occasion de la troisième rencontre mondiale des mouvements populaires réunis au Vatican, il a donc prononcé un important discours, critique ferme et sévère du système économique libéral qu'il appelle à réformer. Et donc c'est la troisième fois que le pape s'adressait à cette nébuleuse de syndicats, de mouvements paysans, de chiffonniers, de travailleurs précaires, de migrants, d'habitants des quartiers pauvres engagés pour que les exclus soient les protagonistes des changements économiques, politiques et sociaux. Donc qu'est-ce qu'il a dit le pape ? Donc François a reconnu qu'il y avait des forces puissantes qui peuvent neutraliser ce processus de maturation d'un changement capable de supplanter la primauté de l'argent et de replacer l'humain au centre. Bon, jusque-là, tout va bien.
C'est comme Mélenchon, ça, non ? L'humain au centre.
Ouais, non, c'est le pape François Mélenchon, oui.
D'accord. C'est un mouvement populaire.
Et son monde.
C'est un mouvement populaire.
C'est un mouvement... Ce fil invisible...
Je sors du studio immédiatement.
Attends, je cite le pape Vincent...
Silence pour le pape, oui.
Un peu de silence pour le pape. Ce fil invisible, cette structure injuste qui relie toutes les exclusions dont vous souffrez, qui peut se durcir en fouet existentiel, qui a servi, vole la liberté, c'est l'argent déifié. Mon Dieu. Le pape a aussi dénoncé l'impérialisme de l'argent qui met en place une dictature économique mondiale. Il a heureusement parlé de terrorisme, parce qu'en ce moment on parle beaucoup de terrorisme. Je cite, aucune dictature ne peut se maintenir sans exploiter nos peurs et ainsi toute tyrannie est terroriste. La peur qui, en plus d'être une bonne affaire pour les marchands d'armes et de morts, nous affaiblit, nous déséquilibre, détruit nos défenses psychologiques et spirituelles, nous anesthésie face à la souffrance de l'autre et nous rend cruels. Donc il a employé une formule qui s'appelle la banqueroute de l'humanité. Lors de la banqueroute d'une banque, des sommes scandaleuses apparaissent immédiatement pour la sauver, mais quand se produit cette banqueroute de l'humanité, il n'y a pas le millième pour sauver ses frères. Enfin, le pape a souhaité un renouvellement de la vie démocratique et des mœurs politiques. Il a appelé les mouvements populaires, souvent tentés par l'action politique, à mettre en question les politiques économiques et à changer le système. Je cite, « Cette idée des politiques sociales conçues comme des politiques vers les pauvres, mais jamais avec les pauvres et des pauvres, me semble une espèce de poubelle maquillée pour cacher les déchets du système. »
Et son monde.
Et son monde.
Et le monde ou rien, n'oublions pas. Mais oui, non, je ne peux pas sortir du studio, je ne suis pas. Mais donc, après Radio Vatican, Radio Satan, maintenant on va partir chez les hindous. Et il y a un projet qui n'est pas du tout sympa, enfin qui continue à pas du tout être classe par contre.
C'est Radio
et qui...
Shiva.
Radio Shiva, clairement, maintenant. Donc mais là, je vais vous parler du projet, alors je vous m'excuserai la prononciation, c'est Adar, et c'est donc c'est le plus... En fait, c'est... Oui, je parle pas un mot d'hindou, j'en suis bien désolé, mais c'est par contre quelque chose d'extrêmement sale, vraiment, c'est le plus gros fichage de l'histoire de l'humanité. En fait, c'est le gouvernement indien qui, en fait, était incité à la base par des industriels indiens. C'est ça aussi, ça qu'il faut voir, a lancé pendant 5 ou 6 ou 7 ans le projet de ficher l'ensemble de sa population. Donc l'ensemble de sa population, ça veut dire un fichier qui concerne 17% de la population mondiale, quand même. Donc qu'est-ce qu'on trouvera dans ce fichier ? On trouvera les empreintes digitales, l'iris et le visage des gens. Ce fichier commencera dès l'âge de 5 ans, vous commencerez à être fiché. Il a pour objectif officiel de permettre en fait une meilleure redistribution des aides sociales. Sauf que dans les faits, c'est un Français Safran qui fait ça, qui va quand même gagner 1 milliard d'euros quasiment là-dessus. Une fois que vous serez fiché, vous aurez un compte bancaire qui sera ouvert d'office. Bah, ce qui est vrai, c'est que ça a permis au gouvernement indien de découvrir beaucoup d'Indiens dont ils n'avaient absolument pas la connaissance. Mais une des problématiques majeures, c'est surtout en fait de à quoi va servir ce fichier. Donc en plus de la question de la redistribution des aides sociales, en fait, ce fichier va être obligatoire. Donc on imagine qu'il y a des systèmes de scanners ou de cartes Ça, j'ai pas bien compris encore et je suis pas sûr que ça soit encore fait. Mais les gens devront en fait prouver leur identité et prouver qu'ils sont bien dans ce fichier pour énormément de choses, notamment en fait acheter dans les magasins d'État. Ce qui est une chose qui est extrêmement commun en Inde, en fait, où il y a 45 milliards d'euros qui sont redistribués à travers des aides alimentaires, des aides pour l'énergie. Ça sera aussi nécessaire pour, en fait, à chaque fois que l'État mettra un peu d'argent dedans, il faudra que les individus prouvent, en fait, leur inscription à ce fichier. Ça soit aussi pour l'achat de billets de train, ou ça sera aussi pour les mariages, par exemple. Il paraît qu'en fait, l'ensemble des prêtres incitent les gens à se ficher eux-mêmes, et ils demanderont, beaucoup de prêtres ont prévu de demander que les deux jeunes mariés soit inscrit dans ce fichier pour pouvoir avoir le droit de se marier. Donc il faut imaginer que ces informations sont gardées pendant 7 ans par le gouvernement. Donc l'ensemble des pauvres et des achats des pauvres seront fichés pendant 7 ans par le gouvernement. Donc on arrive à, enfin Orwell est pas très loin, enfin c'est une véritable délire de science-fiction. Tous vos actes seront entièrement contrôlés, vous serez suivis, tous vos déplacements seront contrôlés comme ça. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que Safran et tout Safran et son monde continuent à se développer un peu partout. Et dans leur grand délire aussi, ce qu'on apprend dans cet article que je vous recommande, que le fichage aussi sert aux réfugiés de guerre, qui leur permet, donc ces réfugiés de guerre qui sont fichés dans les camps, quand ils vont acheter aussi ou récupérer de l'aide en fait alimentaire, et ben tout simplement l'équivalent en fait du prix de ces aides alimentaires sera immédiatement déduit de ce que avait prévu donner le programme alimentaire mondial. Donc ça permet comme ça de directement de déduire et de réduire. Donc un fichage généralisé, on parle quasiment qu'à être l'Inde, 17% de la population mondiale, avec les réfugiés on doit bien être 20-25% de la population mondiale qui sera détenue par Safran. Voilà. Bienvenue dans le futur.
Et son monde.
Et donc on passe à l'actualité nationale, on est toujours sur Radio Canu.
La plus rebelle des radios.
Et il est 19h26.
102.2.
27.
Et lundi, oui, 102. What?
Non, il est 19h27.
19h27 ouais. Et on est le 102.3 lundi 5.
Du coup, pour passer à l'actualité nationale, et on a une bonne transition puisqu'on va encore parler de fichage.
Et son monde.
Et de son monde, exactement. On vous avait parlé du fichier TES déjà dans l'émission, donc qui a été mis en place récemment et qui va ficher toute la population à partir des données des cartes d'identité et de passeport, mais je ne vais pas m'apesantir trop là-dessus parce que je sais que vous écoutez avec assiduité notre Canu Info. Donc là, on a appris que le 29 octobre, grâce à nos sites d'information libre, notamment IATA, on a appris que le 29 octobre, il y a un décret qui a été mis en place et qui permet la mise en place d'un nouveau fichier de police qui s'appelle l'IGAV, donc entendre informatisation de la gestion de la garde à vue. C'est un fichier qui pourra recueillir, donc, à la suite d'une garde à vue, tout un tas d'informations passionnantes vous concernant, comme vos préférences alimentaires. Donc on se doute bien que derrière vos préférences alimentaires, c'est aussi vos orientations religieuses qui vont être mises en question. Votre état de santé, donc avec les informations que vous pourrez donner ou que le médecin auquel vous aurez éventuellement fait appel pourra leur donner. Également l'identité de votre avocat, de vos médecins ou de la personne que vous avez fait prévenir. Donc, je voulais faire un appel à tous mes amis de ne pas m'appeler quand ils sont en garde à vue. La liste des effets personnels qu'ils vont retrouver sur vous au moment de la mise en garde à vue. Et également les droits que vous acceptez ou refusez. Donc si vous refusez le prélèvement ADN, la signalétique, donc c'est-à-dire donner vos empreintes, si vous voulez avoir un avocat ou pas. Enfin, toutes ces informations absolument indispensables à la sûreté de l'État, elles seront conservées même s'il n'y a aucune suite à votre garde à vue, quoi. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas poursuivi, ces informations elles pourraient être conservées jusqu'à 9 années et consultées par les états-majors, l'IGGN, l'IGPN et le défenseur des droits. Pour les autres services, ils pourront juste le consulter pendant 5 ans. Donc voilà, hein, comme d'habitude, le Parti Socialiste a bien montré quel était son camp. Depuis qu'ils sont au pouvoir, entre la loi renseignement, le précédent fichier TES, en termes de fichage, ils n'ont rien à envier à la droite. Donc on ne regrette pas que François Hollande se représente pas. Hein. A priori, il n'allait pas trop dans notre sens.
Ce que la droite avait rêvé, Hollande l'a fait. Hein.
Exactement. Enfin, l'a continué et perpétué. Voilà, pour ce qui est du fichage.
Donc toujours au niveau national, donc, une dizaine de réacteurs nucléaires ont été arrêtés dernièrement et c'est la première fois que ce phénomène a été observé depuis une dizaine d'années. Rappelons que le nucléaire représente plus des trois quarts du mix énergétique français selon la RTE, donc Réseau des Transports Routiers. Et sur les 58 réacteurs nucléaires répertoriés sur 19 sites, dont 8 sont en démantèlement, 15 ont donc été arrêtés. Vous allez alors me demander quelles sont les raisons. Donc la première raison, c'est que des réacteurs ont été arrêtés suite à des maintenances et tests de contrôle liés à des anomalies. L'anomalie, une concentration excessive de carbone dans l'acier des générateurs, sur les 15 en même temps, soi-disant passant. Deuxième raison, donc irrégularité et falsification dans les dossiers de fabrication de pièces équipant les réacteurs, donc forgés à l'usine d'Areva au Creusot. Mais ne vous inquiétez pas, donc, chers auditeurs, donc, les solutions ont été trouvées par la RTE, donc, le réseau des transports routiers. Première mesure, donc, une super application est aujourd'hui donc, disponible, se nommant EcoDomits, qui nous alertera, donc, nous, petits consommateurs, donc, la veille de tension. Et deuxième mesure, donc, interruption du courant donc, de 15 minutes à plusieurs heures. Bref, nous passerons peut-être un Noël à la bougie.
Alors, nouvelle sensationnelle aussi, François Hollande, président de la France et des Français, ne se représente pas. Bon, bah, c'est super hein, qu'il ne se représente pas, tonton Hollande, mais encore aurait-il fallu ne pas se présenter tout court. D'accord ? Donc, tout le monde. Et tout le monde, donc, tout le monde applaudit. Quel courage, quelle détermination. C'est un moment historique. Ouais, c'est un moment historique. C'est la première fois qu'il y a un type qui est si nul, tu vois, qui peut même pas briguer. C'est historiquement nul. Qu'on se rassure. Il y a plein de types pour le remplacer, des types très loyaux, par
tout
exemple.
Tout aussi nul.
Voilà, un peu plus même, si c'est possible. Et notamment un certain Manuel Valls, je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
Et qui,
Valls.
Valls.
Comme voilà, la danse.
Comme dans la, comme dans la chanson de Jacques Brel. Et donc ce Valls, il se propose eh bien, de se présenter à la place de son chef. Et bah, c'est une surprise totale, hein, parce que si on y regarde bien, c'est des événements totalement extraordinaires et hallucinants, surprenants, c'est du jamais vu. À savoir les deux anciens premiers ministres qui se présentent à la présidentielle, quoi. Donc bon, super.
C'est vrai que c'est un truc de malade quand même.
Donc ça
après,
fait bien.
Historiquement, avec un peu de chance, aucun sera élu. Historiquement, aucun premier ministre n'a jamais réussi à devenir président.
Pompidou, il n'était pas premier ministre de Gaulle ?
Je crois pas. En tout cas, aucun. Enfin, je sais pas. C'est ce que disait France Inter tout à l'heure, que personne n'a Matignon.
Ah, mais nous, on n'est pas France Inter, donc nous, on va dire le contraire de France Inter.
Devenez premier ministre, vous serez président, c'est ça ?
C'est ça.
François Fillon était premier ministre. Hein.
Ouais. Ouais.
Ouais. Bah, le président.
Il
n'est
pas encore président.
Un battle de premier ministre.
Bah, il est président des Républicains, hein, à défaut d'être président de la République. Hein, on verra ce que ça donne. Donc, bon, bah.
N'importe quoi,
c'est n'importe quoi. Non, c'est même plus Wauquiez, il s'est fait jeter, mais c'est un autre. Ouais,
pour
c'est
les infos, hein, vous pouvez tout de suite mettre France Inter.
Regardez Wikipédia, ça sera peut-être mieux.
Ouais, la bon, plus rebelle des radios.
Et donc, bon, bah, voilà. Hein. Et donc, du coup, bon, bah, le Parti Socialiste, on apprécie quand même le petit massacre des 100 derniers mètres hein, qu'ils nous font. Donc, t'as le grand Manitou qui démissionne, le petit Roquet qui ambitionne. Et au final, bon, bah, vu qu'ils ont perdu, vu qu'ils sont morts, vu qu'ils n'auront plus de députés, vu qu'ils vont avoir des dettes et qu'ils vont être obligés de changer de nom. Ils vont sûrement s'appeler les Républicaines, je crois, j'ai entendu ça à France Inter.
En tout cas, sûrement les démocrates, c'est possible. Au point où on en est.
Et donc, c'est ça, c'est ben, ils nous font quand même le coup de jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que c'est clair qu'ils n'ont plus de légitimité, plus de pouvoir, ils ne contrôlent plus leurs flics, ils ne contrôlent plus leurs voyous. Et sur le dernier mandat, là, passer la loi travail, ils envoient encore du lourd. Avec les fichages, hein, parce qu'ils nous font la grosse série science-fiction où avant de quitter, bah, ils nous mettent tous dans la merde hein, en mettant nos blazes à disposition de la police.
Et prolonger l'état d'urgence jusqu'à la présidentielle pour le prochain, voilà. Qui s'en bénéficie aussi.
C'est ça. Ils nous réforment la justice, ils nous réforment les lycées, ils nous réforment les collèges, ils réforment la police aussi, la gendarmerie.
Et ils vont même dernièrement à parler de, avant de se casser, ces enfoirés quand même, à nous remettre le service militaire. Donc il y a le voilà.
Hein, c'est dans mecs... le programme du PS pour l'instant.
C'est ça. Ça. Oui, mais bon, les mecs qui se.
Ça t'aurait pas fait de mal à toi, tiens.
Ouais. Ben voilà quoi. Bon. Donc du coup, bah Hollande, bravo, d'accord, et que les autres suivent l'exemple et qu'ils se cassent tous.
On va continuer avec les présidentielles parce que c'est quand même bien sympa cette campagne.
On s'amuse comme des petits fous.
Donc il y a eu la primaire là, de la droite là, des Républicains, et au lendemain, donc au surlendemain, puisque le mardi c'était le mardi 29 novembre au matin, il y a les Parisiens qui ont retrouvé un tract sur leur pare-brise de leur voiture avec un portrait de Sarkozy et puis un pour la France. Écrit en gros, j'y vais quand même, Nicolas Sarkozy 2017. Il y a 150 000 tracts qui ont été imprimés en couleur et distribués, notamment sur les pare-brises, avec un lien vers un site internet jyvaisquandmême.fr qui renvoyait dans un premier temps sur la page Wikipédia d'une prison, puis un article, puis le deuxième jour sur un article du magazine Lundi Matin intitulé « Il n'y aura pas d'élection présidentielle ». Donc bien sûr c'est un fake, et l'œuvre sera donc revendiquée par un duo d'artistes qui se revendique en tant qu'artiste comme un geste brut, une émotion collective, une action à réaction dont chacun est auteur de son propre pourquoi. Tout un programme. Et il n'y aura pas d'élection présidentielle. Ça, c'était un slogan de la mouvance des gens qui écrivent dans Lundi Matin, tout ça.
Les autres noms.
Et ils ont interviewé donc, les auteurs du fake. Et pensez-vous que la présidentielle aura lieu? Et les auteurs du fake ont répondu: on n'en sait rien, mais on dirait bien que oui.
Quelle lucidité.
Voilà. Donc, comme on vient de le dire, donc Hollande dépose le bilan, mais heureusement, il y a Valls. Et ça pourrait être quand même. Quelque part, une bonne nouvelle, au moins pour Notre-Dame-des-Landes, puisque Valls avait dit qu'il il se ferait un devoir d'expulser Notre-Dame-des-Landes avant la fin du mandat, avant la fin de l'année. Et donc, comme il annonce sa candidature ce soir même, donc là, à l'heure qu'il est, il doit l'avoir annoncé à l'hôtel de ville de son fief électoral, Évry, l'expulsion de la ZAD, puisqu'il va démissionner en tant que Premier ministre, peut-être va être retardé. Donc l'expulsion de la ZAD était l'occasion pour Valls en fait de jouer une dernière carte perso contre Hollande, qui a confié à des journalistes qu'à son avis cet aéroport ne se fera jamais. C'est Ségolène Royal quant à elle qui pense qu'il vaut mieux en rester là et que le projet est stupide de toute façon. Et Jean-Christophe Cambadélis qui prévient des risques graves d'un affrontement et dit qu'il est urgent d'attendre. Notons la formule de rhétorique. Voilà, pour ce qui continue avec le PS, donc il y a une pétition qui tourne sur Internet pour que Taubira se présente aux primaires de la gauche et qu'elle soit la candidate de la gauche unitaire. Donc c'est une pétition sur change.org qui a récolté pour l'instant plus de 82 000 signatures. Donc pour Taubira, la progressiste, hein, Taubira qui a fait poireauter un an pour faire passer la loi du mariage pour tous et laisser pourrir la situation avec tout ce qu'on sait des manifs pour tous. Pendant ce temps, il faisait passer la loi pour l'emploi comme ça avec un écran de fumée formidable. Taubira, sous qui on a condamné à de la prison ferme des syndicalistes de Goodyear parce qu'ils avaient voulu protéger leurs emplois. Taubira, la progressiste qui a vu prolonger l'état d'urgence sans sourciller et l'assignation résidence de militants écolos. Elle n'a pas encore dit oui, mais Montebourg confie qu'il serait prêt à collaborer. Et à la question « prêt à se ranger derrière elle », il a répondu...
Montebourg collabore.
Ouais. Et à la question « prêt à se ranger derrière elle », il a répondu « ça pourrait être l'un ou l'autre ». Donc voilà, ensuite on continue avec les anciens et les gens du PS, donc ancien sénateur PS Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, là, tout le monde lui dit de se présenter à la primaire du PS, donc tout le monde, de Cambadélis, Montebourg, Hamon, Piketty, l'économiste, et Cohn-Bendit, ils disent « viens te présenter ». C'est que Mélenchon, en fait, il a une super stratégie, c'est qu'en fait, il devient un YouTuber. Et c'est la première chaîne politique en France. Et apparemment, il est très, très visionné. Et Mélenchon, pour terminer, il nous dit, à chaque fois dans les vidéos YouTube, si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous, s'il vous plaît. Mais avant ça, cliquez sur le pouce bleu, ça aide à la booster.
Waouh. C'est un sacré communicant quand même.
Peut-être le premier qui a compris qu'en marché YouTube, c'est déjà pas mal. Attention, au moins lui donner ça.
Il y a Le Pen Père hein, qui est abonné. Là.
Du coup, un peu à cheval sur l'actu nationale et l'actu locale, parce que ce week-end, à Lyon, se tenait une réunion avec la famille d'Adama Traoré. Donc, pour rappel, hein, Adama Traoré, c'est le jeune homme qui s'était fait tuer cet été par les flics le 19 juillet.
Les gendarmes
qui se sont mis gentiment à trois sur lui jusqu'à l'étouffer. Donc, normalement, vous êtes un peu au courant. Et donc, là, ce week-end, à Lyon, il y a la famille d'Adama Traoré qui était présente pour une réunion pour essayer d'organiser localement un peu le soutien. Et réunion qui se devait se tenir à la MJC du 7e, à la MJC Jean Massé, mais que la mairie a décidé d'annuler. Alors, sûrement sous prétexte de possibles troubles à l'ordre public, puisque, effectivement... À Beaumont-sur-Oise, il y a eu quelques troubles ces derniers temps à la suite de cette affaire. Mais en même temps, quand on tue des gens et qu'on met en prison injustement d'autres et quand on porte plainte contre leur sœur, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des petits troubles. Donc du coup, la rencontre a quand même pu avoir lieu. Je voulais juste un peu rappeler le contexte. La mairie de Beaumont-sur-Oise, la maire de Beaumont-sur-Oise, pardon, Nathalie Groux avait porté plainte contre Assa Traoré, donc la sœur d'Adama, pour diffamation. Donc, elle avait dit sur un plateau télé, la maire de Beaumont-sur-Oise a choisi son camp. Elle se met du côté des gendarmes, c'est-à-dire du côté des violences policières. Faut rappeler quand même que Nathalie Groux a également appelé sur Facebook les habitants de Beaumont-sur-Oise à se réunir pour soutenir leur police face aux périls émeutiers. Donc effectivement, il me semble que Nathalie Groux a effectivement choisi son camp. Donc je ne sais pas très bien où est la diffamation, mais en tout cas, elle a porté plainte contre Assa Traoré. Et donc non contente d'avoir déposé sa plainte, elle présentait une demande de prise en charge de ses frais de justice à la commune de Beaumont-sur-Oise, au conseil municipal, le 17 novembre, à hauteur de 10 000 euros. Donc, du coup, le 17 novembre, la famille d'Adama Traoré et ainsi que de nombreux soutiens, donc c'était une petite centaine, se sont réunis pour participer au dit conseil municipal. Et comme d'hab, hein, un petit combo, les flics qui étaient venus nombreux, hein, donc le classique, gazage, matraquage, ils ont sorti les chiens de défense. Et dis-moi.
Et c'est l'opposition du conseil municipal qui a annulé la séance.
Voilà. Mmh. Du coup, là...
ils n'ont pas troublé, hein, il ne s'est rien passé. C'est l'opposition qui a refusé de tenir le conseil municipal.
Exactement. Et du coup, il y a eu quelques échauffourées en marge du dit conseil municipal qui a abouti quelques jours plus tard à l'arrestation de deux frères d'Adama Traoré, donc Bagui et Youssouf. Alors,
pour des insultes.
Voilà, pour outrage. Donc l'acharnement de l'État contre la famille Traoré commence à dépasser vraiment l'entendement. On se demande où est-ce qu'ils peuvent aller encore. Et donc les deux frères d'Adama ont été placés en garde à vue. Puis un juge des libertés et de la tentation et de la détention particulièrement bienveillant a décidé de les mettre en détention provisoire. Donc sachant qu'ils sont poursuivis pour outrage. Alors, sous prétexte qu'il pourrait exercer des pressions sur les témoins appelés à être cités à l'audience, donc audience qui aura lieu le 14 décembre. Donc, du coup, il a décidé de les mettre en prison pour outrage. Donc, pour qui connaît un peu les rouages de la justice, en réalité, ça arrive jamais hein, d'être mis en détention provisoire pour ce genre de choses, parce que c'est des délits mineurs. Mais vraisemblablement, la famille Traoré dérange beaucoup parce qu'elle parvient à mobiliser beaucoup de gens. Donc voilà, leur procès, c'est le 14 décembre. En attendant, on souhaite bien du courage à Youssouf et Bagui qui pourrissent dans les geôles de l'État qui a décidé de s'acharner sur eux.
L'État assassin.
Ouais, de l'État assassin. On est tout cœur avec eux, on pense bien à eux, on est très solidaires de la famille. Et voilà, on leur souhaite de continuer, ils mènent un super combat. Et voilà, sans justice, on ne leur laissera pas la paix, nous non plus.
En janvier à Lyon ?
Oui, et du coup en janvier à Lyon, il y aura une manif, le 21 janvier, il y aura une manif en soutien. Mais voilà, en attendant, on leur exprime tout notre soutien quoi, et toute notre solidarité.
Il y a une page Facebook aussi, je ne me rappelle plus exactement le nom, mais où on peut suivre. Et il semblerait qu'il y ait aussi des manifestations avant le 21. Donc suivez un peu la page, je crois que c'est Justice pour Adama Traoré, un truc comme ça.
Et on ne leur laissera pas la paix non plus.
Ok, on passe du coup aux actus locales. Alors très localement, là, on est en plein contexte pré-fête des Lumières à Lyon. Ça va commencer à être vraiment compliqué en milieu de semaine. Donc le contexte de la fête des Lumières, c'est toute la ville qui s'illumine et qui se transforme en parc d'attractions.
Et son monde.
Ouais, et son monde, pour célébrer la Sainte Vierge. Puis on a déjà un peu parlé de nos élus chéris. On a même cité le pape sur Radio Canu ce soir, donc on va continuer sur la lignée en parlant un petit peu d'un pèlerinage, un petit pèlerinage de nos élus locaux. Incroyable, 256 élus majoritairement de droite, dont le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, dont notre maire de Lyon et président de la métropole de Lyon, Gérard Collomb, dont Christophe Guillotot, président Les Républicains du département du Rhône, etc. etc. 256 élus invités au Vatican à l'initiative du cardinal Barbarin. Donc ils ont été reçus par le pape François pour une audience spéciale de 45 minutes dans le cadre de la fin du jubilé de la miséricorde pour les aider, enfin pour aider en tout cas les élus les plus proches des valeurs chrétiennes à trouver les réponses, les bonnes réponses à propos des décisions qu'ils doivent prendre. Donc ce qui fait polémique, bien sûr, c'est le financement de ce petit pèlerinage. Oui, Vincent.
On n'a pas su ce qui s'est dit à cette réunion.
Ben non, moi je sais pas, mais je pense qu'il y a eu deux ou trois messes.
Toi, tu y étais, Jean-Luc, dans cette réunion?
Non.
C'est du faux pinard, ça sert à rien d'y aller, je vous le dis tout de suite, il le coupe à l'eau, c'est fini, il n'y a plus rien.
Outre le vin et les hosties, on se demande comment ils ont fait pour y aller, pour financer ce trajet. Donc ça fait polémique bien sûr, parce qu'il y en a certains qui nous disent qu'ils l'ont financé entièrement de leur poche, et d'autres qui se sont quand même trouvé quelques petits rendez-vous officiels pour mettre à contribution le contribuable. Donc cofinancer le trajet par le denier public, ça fait un petit peu flipper. Donc on a une petite pétition qui traîne en ligne en ce moment, enfin qui est sortie ce soir là, qu'on a vu passer, sur cette demande de remboursement au peuple.
De la mort d'un innocent Adama Traoré, c'est ça?
Ben, en l'occurrence, on est passé à l'actu sur le... Mais on pourrait aussi en parler, et on en a parlé. Mais là, on fait un focus quand même sur ce voyage qui est un peu flippant. Et on se demande parfois quels sont les poids de mesure en ce qui concerne la laïcité dans ce pays.
Bienvenue chez les barbarins, chez les barbarins.
Ok, donc là, direction donc, grand projet inutile et défense des terres agricoles. Donc demain est prévu donc un rassemblement à 14h au tribunal administratif de Lyon 2, en salle 2, au 184 rue du Guesclin, pour soutenir donc Philippe Laya. Donc souvenez-vous, donc Philippe Laya est un berger, un paysan, exproprié donc par les rois du béton et le food business, qui mène un combat maintenant depuis donc 2012 contre le grand stade donc de l'Olympique Lyonnais. Donc petit retour en arrière. Même si ce fait est toujours d'actualité, donc dans le cadre de la création du stade de Lyon des Cines, plus d'une centaine d'hectares de terres agricoles ont été donc sacrifiés par le Grand Lyon pour construire voies d'accès et ouvrages routiers, parkings, prolongement du T3 et l'ensemble du complexe. Donc un projet à hauteur de 500 millions d'euros donc pour les joies du foot. De nombreux paysans et petits propriétaires ont été expropriés de leurs terres. Donc rappelons que l'expropriation est normalement un outil d'urbanisme utilisé pour les collectivités pour normalement créer des projets d'utilité publique. Là, on se demande quelle utilité publique pour la création d'un stade de foot, création d'emplois, je ne sais pas, attractivité à voir, spéculation immobilière et foncière, oui sûrement. Donc les terres de Philippe Laya ont été rachetées de force à 1 euro le mètre carré, prix symbolique, voire dérisoire. Pour la création d'une roupe qui coupe en fait son terrain agricole en deux et pour desservir le stade. Les terres voisines, quant à elles, ont été situées en zone urbaine, donc ont été acheté à 40 à 300 donc, euros le mètre carré. Donc, je rappelle, donc, rendez-vous demain à 14h au tribunal administratif pour soutenir donc, Philippe Laya, mais également donc, pour défendre nos souverainetés alimentaires, défendre la démocratie contre les logiques spéculatives et avoir un œil sur donc, les décisions donc, du juge. Rappelons que tous les 7 ans, donc, nous perdons l'équivalent d'un département entier de terres agricoles. Et si vous souhaitez plus d'informations, donc, je vous conseille d'aller faire un tour sur la page Facebook de Philippe Laya, donc soutien aux paysans. Et bah voilà, rendez-vous demain.
Et alors une nouvelle beaucoup plus sympathique, Michel Avard quitte la présidence des Républicains à la mairie de Lyon. Donc il a donné une petite interview dans le Progrès parce que c'est un fervent soutien de Alain Juppé. Et donc il est un petit peu triste, Michel Avard. Alors, il a dit « Je me suis lancé dans une aventure professionnelle passionnante et prenante. Je vis l'aventure d'une PME dont j'ai toujours rêvé. J'ai investi de l'argent et donc pris un risque personnel important. » Bla, 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 bla. Bon, en vrai, les Républicains lui avaient déjà préféré Anne Lorne, une des figures de proue de la Manif pour tous pour les législatives de 2017, et en fait Juppé avait promis de le réhabiliter s'il était élu, et donc en gros Michel Avard était complètement grillé déjà. Son papa d'ailleurs, j'ai appris ça, était directeur adjoint des renseignements généraux à Lyon, donc un type super avec une filiation vraiment sympathique qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous manquer. Ah oui. Donc Michel, on te souhaite bon vent dans ton aventure au sein de ta petite PME. On souhaite bon courage à tes 30 employés qui vont devoir voir ta gueule tous les jours. Et nous, on est bien contents de plus voir la tienne. Et on ne souhaite pas la bienvenue à Anne Lorne.
Voilà. Au revoir Michel.
Au revoir Michel.
Bye bye. On poursuit entre nos petites infos locales et l'agenda du Canu Info du lundi. Alors, il y a une action qui se prépare, une action lyonnaise qui fait partie de la campagne « Faisons le siège de la BNP partout ». Elle est prévue le 10 décembre, il y a un rendez-vous qui est prévu à 9h15 précise au métro Saxe-Gambetta. Les faucheurs de chaises, c'est qui? C'est les militants d'action non-violente COP21, ANV COP21, Attaque, les Amis de l'Alter, Alternativa, Bizi, etc., j'en passe. Rappelez-vous, ils ont déjà fait parler d'eux chez BNP Lyon en novembre dernier. Le 9 novembre, à l'agence BNP Paribas de Confluence, une trentaine de ces militants qui sont venus avec leurs petites chaises et leurs petits tableaux à craie pour faire un cours sur l'évasion fiscale au milieu des clients et des employés de la banque. Ils ont expliqué notamment la manière dont les sommes d'argent qui sont détournées chaque année par l'évasion fiscale pourraient servir à financer cette fameuse transition sociale et écologique. Et le mouvement n'est pas que lyonnais, il est national. Jeudi dernier, dans une agence BNP Paribas parisienne, un groupe de militants faucheurs de chaises est venu installer une petite cantine bio pour le casse-croûte du midi. Leur slogan, c'est du bio, du local et pas d'évasion fiscale. Le message, c'est toujours le même. En mettant fin aux 60 à 80 milliards d'euros qui s'évadent chaque année des caisses des finances publiques, on aurait largement de quoi financer cette transition sociale et écologique. En tout cas, si on reprend les propos de Florent Compin des Amis de la Terre, 3,65 milliards d'euros par an permettraient de financer un programme de rénovation thermique des bâtiments. 5,65 milliards d'euros par an suffiraient pour la rénovation intégrale du réseau de chemin de fer d'ici à 2025. Et il manque encore 7 milliards promis par la France à l'aide au développement. Etc, etc. Cette campagne contre la BNP Paribas se poursuivra au moins jusqu'au 9 janvier. Qui est la date du procès à Dax de Jeanne Pallet. Jeanne Pallet, cofondateur d'ANV COP21 et d'Alternativa, surnommé le Gandhi écolo par Libé. Rappelons que BNP Paribas poursuit Jeanne Pallet pour avoir participé à une action de réquisition de chaises dans une de ses agences. En 2015, le collectif des faucheurs de chaises avait réquisitionné symboliquement 196 chaises dans des banques, HSBC, BNP, Société Générale, etc. Des banques qui participent au système organisé d'évasion fiscale. 196 chaises représentant les 196 pays appelés à négocier ce qui deviendrait l'accord de Paris pendant la COP. Ces chaises ont servi à monter un sommet citoyen, d'ailleurs, pendant la COP. Puis elles ont été rendues à la justice à l'ouverture du procès de Jérôme Cahuzac. Bon, du coup, en parallèle du procès, Ça vous fait mal. Qu'est-ce qui se passe dans le studio? En parallèle du procès de John Palais, qui est considéré comme une injustice, les faucheurs de chaises organisent le même jour, au même endroit, à Dax, donc le 9 janvier, un grand procès de l'évasion fiscale, des paradis fiscaux et des élus qui les laissent prospérer. Et il y aura quelques personnalités présentes, bien sûr. Donc le message est simple, hein. Ce ne sont pas les faucheurs de chaises qu'il faut juger, c'est l'évasion fiscale en bande organisée. Voilà.
Suite de l'agenda.
Alors, mercredi, il y a une assemblée générale le 10, non, le pas du tout, le 7. Il y a une assemblée générale à Lyon 2, à midi, amphi Cujas à Bron. Pour ceux qui ont fréquenté les bancs de l'université, il est relativement connu.
Sinon, regardez sur le plan, vous ne trouverez pas, mais quand même, c'est pas grave. C'est...
Pour de toute façon, c'est une AG étudiante hein, qui est lancée par des individus qu'on ne connaît pas. Et véridique qu'on ne connaît vraiment pas. Non, du coup, voilà, c'est a priori, c'est face à la dégradation générale des conditions d'études. Voilà, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de mouvement à l'université. Donc, je pense que c'est bien d'y aller. Puis, c'est toujours sympa.
C'est à quelle heure?
C'est à midi en Ficujas à Bron, sur le campus de Bron. Et c'est super, les mouvements à la fac.
Moi, j'adore. Hein.
Il faut en refaire.
Bah oui, ça me manque.
Voilà.
Pour les premières années, c'est le meilleur moyen d'intégration, je vous vois.
Exactement, pour vous faire des amis indispensables. Un petit blocage de votre fac.
Que vous traînerez toute votre vie derrière.
Autre info, demain matin, il y a aussi une action d'un collectif qui s'appelle Valve, Vivre à Lyon à vélo. Il s'agit en fait de se retrouver, alors c'est tôt le matin, c'est à 7h30, de 7h30 à 9h30 sur le pont de la Mulatière côté aquarium.
Ok, on va dire à Marc.
Tu veux le dire à qui? Ok, je t'ai pas suivi Jean-Luc, mais une prochaine fois. Donc cette action, c'est quand même un hommage aux victimes, il y a des personnes qui meurent de la pollution. D'après leurs chiffres, il y aurait chaque jour une personne à Lyon qui meurt déçue de la pollution.
Ah ouais ?
Cancer des voies respiratoires, asthme, bronchite aiguë, rhinite, bronchiolite, infarctus du myocarde, angine de poitrine, etc. etc.
Arrête.
Et il y aura l'inauguration d'un premier vélo cargo corbillard. Donc c'est une action un peu visible. Voilà, pour, et puis un hommage à ses victimes aussi. Voilà.
Voilà, y a ça a créé une épidémie de pollution dans le studio. On a perdu Vincent.
Il y a la grande bouffe de samedi aussi. Non mais je suis repéré là, mon blast c'est fini. Hein.
Mais non, attends, t'as vu combien il y en a sur cette foutue planète? Non, mais ouais, vendredi, c'est samedi qu'il y a une grande bouffe, c'est ça?
C'est samedi la grande
c'est
bouffe.
Samedi, la grande ouais. bouffe.
Ça, avant la grande bouffe, il faut faire du sport avant. Donc il y a une petite marche. Et pour ça, les copains nous ont envoyé un petit son qu'on va vous faire
pas
passer.
Après.
Ah non, non, en
général. Non, c'est après. On mange d'abord, après on marche.
Ouais.
Alors, soit vous savez pas dire vos traces, soit je raconte que les conneries. Vos dernières nouvelles, la marche est à 18h.
Et la bouffe à 13h.
Et la bouffe à 13h.
On l'a refait. Pour fêter.
C'est pas grave, Vincent.
On va refaire tout. Alors, d'abord, il y a la bouffe. Après, on marche pour digérer. Et la marche, le jingle.
D'accord. Attendez. Mais avant, il y a un truc de. Oui, la marche, le jingle. Ok, bah c'est parti.
Message aux bootleggers. Ce samedi 10 décembre, durant toute la nuit, Bootleg FM reprend les ondes pour se déployer dans les rues. Live et DJ sur funk, rap, techno, musique bizarre, anti-isoïdale, chimique acidulée et tourons de bruit de paroles en tout genre. Rendez-vous à 18h, quelque part dans la ville. Hotline 06 05 68 72 66. Ramenez vos basses radio et vos enceintes portables. Plus il y aura de son, plus il y aura de bruit. On vous attend nombreux. Plus d'infos 06 05 68 72 66.
Ouais, alors du coup, même si le jingle est extrêmement explicite, c'est rendez-vous à 13h pour un grand banquet donc, chez Tony. C'est un squat. Pour avoir l'adresse, il faut écrire à banquet avec un S des communs à tryzup.net. Et donc l'idée, c'est que chacun apporte un petit truc à bouffer, un petit truc à boire, éventuellement des textes à partager, des discussions à avoir tous ensemble. L'idée, c'est de se retrouver, de fêter les lumières à notre façon. Hein. Là-bas, c'était quand même des fêtes populaires. Et donc, c'est rendez-vous à 13h pour le banquet des communs.
Il y aura quand même des plats chaudes préparés par des volontaires sur place.
Mais comme l'a dit la copine tout à l'heure, si vous pouviez ramener des chaises, si vous passez à BNP Paribas le plus proche, vous ramenez une chaise, parce que je ne suis pas sûr qu'il en ait assez. Dans les faits, ça peut s'avérer très très utile. C'est à part, bah, manger par terre, après l'endroit est sympathique, mais je ne suis pas sûr que ça soit le plus agréable. Donc, vous passez prendre une chaise et puis vous...